La pornographie, c'est comme la haute couture. Il y a des tendances, des cycles, des modes. Le porno a donc aussi sa saison automne-hiver. Qui va des classiques intemporels à des créations plutôt inventives. Et sur le répondeur de question Q, on se dit tout ?
Alors le porno pour moi c'est un peu comme le McDo. J'en consomme, des fois, mais je le dirai jamais à la radio.
Le porno, mais c'est quoi le porno en fait déjà ?
À force de regarder du porno, on se lasse de nos préférences habituelles, non ? Non, moi j'aime bien me laisser guider par les algorithmes, puis découvrir d'autres choses, ça alimente un peu mes fantasmes.
Non, malheureusement, je crois pas qu'on puisse se laisser porter par l'algorithme du porno comme sur Spotify. Ou... Je pense qu'on doit être actif, on doit aussi avoir une consommation consciencieuse, c'est-à-dire vérifier les sites payants, les sites éthiques. Non, c'est du boulot.
Non, mais j'ai honte, mais le porno ne fait pas du tout partie de ma vie. Le jour où vraiment je m'emmerde, j'aurai ce monde fabuleux à découvrir.
Le seul porno que je regarde, il est éthique. Et qui dit éthique, dit payant. Et j'ai déjà MyCanal, Netflix, Amazon Prime, Disney+. Donc si en plus, je dois payer une plateforme pour mater mon porno, il n'y aura pas que les bourses du gars à l'écran qui seront vides.
Perso, c'est complètement dingo, mais je pourrais regarder 5-10 fois la même vidéo si elle m'excite, comme on peut regarder un bon film plusieurs fois. C'est peut-être parce que je comprends pas tout la première fois.
Quatre Suisses sur 5 regardent des vidéos pornographiques. Donc ce soir, on va pas se demander si vous regardez du porno, mais on va se demander quel porno vous regardez. Qu'est-ce qui se regarde le plus ? Quelle tendance émerge ? Sur quelle vague surfe le porno ? On en parle avec Adeline Lafouine, actrice porno en duplex de Montpellier. Flore Chéry, spécialiste des sexualités, elle est à Paris. Et ici en Suisse, les chroniqueurs Antoine Ball et Nicolas Julliard. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir.
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 Christine Gonzalez, question Q.
Adeline Lafouine, vous vivez du porno professionnel, mais essentiellement du porno amateur que vous vendez sur votre site par abonnement ou sur la plateforme OnlyFans aussi. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par porno amateur ?
Dans mon cas, en principe, c'est plutôt du porno pro, vu que je le vends par mes plateformes, mais c'est du porno réalisé avec des amateurs. Donc, pas avec des acteurs, mais avec des personnes, normales.
Comment vous les choisissez?
Je les trouve en général sur une plateforme libertine pour trouver où on cherche des contacts libertins. Et de temps en temps, il y a aussi des fans qui m'écrivent, qui proposent leur service, si vous voulez, par email. Mmh. Et puis, il m'est déjà arrivé de rencontrer des fans aussi pour justement ces rencontres qui sont filmées. Comme il s'agit des amateurs, c'est toujours à visage caché pour
D'accord.
mes partenaires.
Et c'est facile ou c'est compliqué avec les amateurs quand
Alors,
on est une pro comme vous?
Pour trouver, c'est assez facile.
Je m'en doute.
Parce que, il y a beaucoup, beaucoup qui fantasment sur ça, de produire leur propre vidéo pour jouer aux acteurs, pour me rencontrer et puis avoir une aventure avec moi. Mm-hmm. Mais ensuite, pour passer à l'acte, c'est beaucoup plus compliqué. C'est parce que ce n'est pas si facile d'assurer devant une caméra et de bander pendant que mon mari il est à côté puis il filme tout
oui,
ça.
Oui, c'est vrai. Ça fait quelques contraintes. Donc c'est du porno pro, mais qui a l'air d'être amateur. Le porno amateur, Flore Chéry, c'est une grosse tendance depuis plusieurs années.
Oui, c'est ça. Le porno amateur, c'est vraiment le porno qui est le plus consommé, en tout cas en France. Mais on voit aussi que les recherches locales par pays cherchent souvent des pornos qui sont dans la même langue, voire du porno amateur aussi. Pourquoi ? Parce que ça donne l'impression de proximité avec le consommateur. Il va se dire, tiens, ça pourrait m'arriver à moi aussi. Si cette situation pourrait se passer dans la vie réelle. Et c'est ça qu'on va venir chercher quand on consomme du porno, l'impression que son fantasme, quelque part, c'est la réalité.
Mais qu'est-ce qui est le plus excitant? Est-ce que c'est de savoir que les acteurs, actrices sont amateurs, ou est-ce que c'est la façon de filmer qui fait qu'on se dit ah mais c'est une vidéo maison en fait?
L'amateur, en tout cas, se définit, je vais parler de la production européenne, par la façon de filmer. C'est-à-dire, on parle même plus de pro-amat dans le milieu. C'est-à-dire qu'on va simuler, faire semblant parfois que c'est de l'amateur à 100%, alors qu'en réalité, il y a un caméraman, il y a un preneur de son, il y a quelqu'un qui va faire du montage.
C'est ce que fait Adeline,
mais
d'ailleurs.
C'est ce que fait Adeline et c'est ce que font en fait beaucoup de personnes dans le secteur. Mais le but de cette vidéo, c'est d'essayer de montrer une relation sexuelle la plus spontanée possible. Par exemple, une rencontre dans la rue. Par exemple, au bureau, il se passe quelque chose sur le lieu de travail. On va essayer d'avoir quelque chose de spontané avec une façon de filmer qui est assez... pas trop travailler pour pas montrer qu'il y a trop d'efforts de fait en termes d'éclairage, etc. D'essayer d'avoir quelque chose de réaliste au bout. Mais ça s'appelle du pro-amat, ça reste pro quand même.
Ouais, c'est ce que vous faites, le pro-amat, Adeline, mais est-ce que vous scénarisez ou bien quand même vous essayez à la spontanéité?
Oui, alors là, il y a quand même une grande différence après entre mes vidéos que je fais avec les amateurs et les productions que je fais pour des studios professionnels. C'est que chez moi, il n'y a pas de scénario. C'est vraiment une rencontre, on baise, on s'amuse, on fait voilà ce qu'on a envie. Mais c'est vrai, la différence, c'est que il y a un caméraman et puis il y a aussi des lumières pour avoir une bonne lumière à côté. Mais sinon, il y a pas de coupure non plus et puis il y a pas de pause imposée et puis voilà, pas de scénario.
Est-ce que puisque on le sait qu'il y a énormément de concurrence, est-ce que vous sentez qu'il y a, il y a des tendances qu'il faut suivre, sinon vous seriez vite hors course? Est-ce qu'il y a une pression de votre côté? Est-ce qu'il faut se réinventer?
Oui, alors la concurrence est énorme parce que, comme on dit Flore, ça a explosé ces dernières années. C'est vraiment énorme. Il y a de plus en plus femmes et aussi couples qui produisent leurs propres vidéos. Et il faut vraiment... rester toujours à jour et rester toujours actif pour que les gens suivent. Ensuite, il y a des tendances, oui, mais après, c'est aussi le cas, si tout le monde suit les mêmes tendances, il faut plutôt essayer d'inventer son propre style, je pense.
C'est quoi votre style? Vous, c'est plutôt hard, hein? Vous allez des fois dans l'extrême.
Oui. Alors, mon style, c'est vraiment justement que j'invente pas des scénarios comme c'est très à la mode. J'invente pas que mon invité est un livreur pizza, et ce n'est pas le cas. moi, je dis voilà, c'est un fan, c'est un follower ou c'est juste un libertin que je rencontre, mais je fais du hard. Donc je le demande, voilà, toujours anal, beaucoup de fistes, parfois de l'uro. C'est vraiment en principe mes invités, mes complices, comme je leur dis toujours, ils peuvent réaliser leur fantasme hard avec moi.
Est-ce que vous tournez aussi, hein, vous faites des tournages professionnels avec d'autres productions, et on le sait, les tendances sont de plus en plus extrêmes. Physiquement, c'est dur, c'est hard, il faut tenir une pause, c'est long. Et je crois savoir qu'à 10-15 ans, un fist anal, c'était incroyable. Aujourd'hui, c'est du standard, ça vaut plus rien.
Oui, c'est ça. Quand j'ai commencé, je crois que j'étais une des premières qui a montré des fistes anales. Tout le monde était « waouh, un fist incroyable !» Et aujourd'hui, c'est presque normal. Et pour certaines productions, si on fait pas des doubles anales, des triples anales, on s'ennuie presque. En tout cas pour certaines productions.
Pourquoi vous faites du pro, vous? Parce que vous avez vos studios, votre business, un site qui marche bien, une page OnlyFan qui est fréquentée. Pourquoi encore se rendre, comme vous le faites régulièrement, à Prague pour participer à des productions qui sont assez exigeantes, finalement?
Alors, premièrement, ça m'amuse beaucoup et je choisis des productions où je prends mon pied, où justement c'est un peu hard, où ils demandent beaucoup parce que j'aime vraiment faire ça. Et deuxièmement, pour moi, c'est une question de marketing un peu. Ça augmente ma visibilité sur Internet. Ça me ramène de nouveaux fans qui me trouveraient pas sinon, parce que ils cherchent sur les plateformes professionnelles. Ensuite, voilà, c'est payé pas mal aussi. Donc,
une scène peut être payée entre 1000 et 2000 francs, je crois.
Oui, c'est ça, oui.
Les conditions de tournage, Flore, parce que peut-être ce serait bien de revenir. Enfin, il y a eu plusieurs scandales ces derniers mois dans l'industrie du porno, des viols, des abus, des mauvaises conditions.
Oui, que ce soit en France ou que ce soit en Europe, aux États-Unis, les conditions de tournage des actrices porno ou des acteurs porno ont été vraiment questionnées. Je pense au film Pleasure qui vient de sortir récemment au cinéma, qui fait l'état des lieux de la façon dont est recueilli le consentement, des pressions éventuelles lors du tournage, lorsqu'un acteur ou une actrice ne veut pas tourner. Ça pose aussi la question des fantasmes parfois qui sont réalisés. Je pense notamment à l'interracial, quand les actrices blanches sont plus payées, quand elles couchent avec des acteurs noirs, parce que c'est censé être dégradant. Voilà, ça vient questionner toutes les zones d'ombre, les zones grises qu'on peut observer autour des tournages porno, qui sont parfois des zones de non-droit dans lesquelles la police n'ose pas trop intervenir parce que c'est mal défini juridiquement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai questionnement, il y a une vraie volonté de poser des barrières juridiques, des limites juridiques pour faire en sorte que des personnes comme Adeline Lafouine se sentent parfaitement bien, à l'aise, écoutées, sécurisées lors des tournages, que ce soit des personnes comme Adeline chevronnées ou des personnes qui débutent et qui ne savent pas du tout comment ça se passe.
On s'assure de votre bien-être, Adeline, lors de tournages professionnels ?
Oui, énormément. Alors, j'ai fait que de très bonnes expériences. Aujourd'hui, on le fait depuis peu de temps. On enregistre une interview avant la scène et après la scène de l'actrice pour lui demander son consentement, et puis après la scène pour demander si on était d'accord avec tout, si les pauses étaient respectées, si on se sentait à l'aise, etc. Donc on est un peu toujours un peu la princesse si on veut. Ouais, et puis même pour les tournages très rares, dans leur retour, c'est vraiment toujours nickel. Mais ils sont obligés parce que justement, il y avait récemment en France des gros scandales dans ce milieu. Et si un studio se permet de ne pas bien traiter les actrices, ils risquent quand même gros, fermeture du studio. Et là, en France, il y a plusieurs personnes qui ont fini en prison récemment.
On se retrouve dans quelques instants pour parler des modes du moment dans le porno. On va parler de deepfake, de faux reality porn. Ça va être très instructif. On vous expliquera tout. Ce sera après Mylène Farmer.
C'est question Q sur la première de 21h à 22h.
Mon cœur est rempli, mais mon corps s'ennuie. Des jeux délibérés avec un dé. Des dépipés. Je veux savoir où est le vent. J'ai la minère au même temps.
Thank you.
Mylène Farmer, pornographique, sur la première.
Mon terme de recherche à succès préféré cette année, sodomie surprise. C'est vrai que moi, comme Leïla, quand je pense surprise, je pense à Kinder surprise. À surprise du chef, à la limite. Mais là, c'est quand même, j'allais dire, plus frontal, mais pas vraiment. Les surprises, ça fait toujours plaisir. Mais celle-là,
ouais.
Avant de pratiquer dans la vie, demandez-vous, et finalement, des fleurs.
Question Q, le magazine des sexualités sur la première.
Marina Rollman sur France Inter, on aime. On vous parle de porno ce soir dans Question Q et des tendances du moment avec l'actrice Adeline Lafouine et la spécialiste des sexualités Flore Chéri. Alors parmi les tendances, le deepfake. Alors le principe est de placer la tête d'une star que l'on aime grâce à un logiciel de réalité virtuelle dans un porno. Ça s'appelle le deepfake. C'est une prouesse technique qui fait qu'on y croit vraiment, Flore Chéri.
Oui, tout à fait. Ça se base sur le deep learning et ça permet de faire croire qu'une actrice ou un acteur porno, un acteur traditionnel, est en train de devenir un vrai acteur porno ou alors qu'on lui aurait volé une sextape. Alors cette pratique, elle est évidemment... cette façon de créer un faux porno est c'est une vraie tendance, mais c'est aussi beaucoup décrié. Par exemple, ça peut être un délit au Royaume-Uni et Pornhub a en 2018 carrément décidé d'arrêter tous les deepfakes qu'il y avait sur sa plateforme et il y en avait beaucoup.
Enora Malagré, je sais pas si vous la connaissez, elle est chroniqueuse, comédienne, animatrice en France et elle a été victime d'une vidéo deepfake. On a pris son visage qu'on a plaqué sur un autre corps et la vidéo porno a fait des dizaines et des dizaines de milliers de vues. Elle en a parlé il y a quelques semaines sur les plateaux de télé comme ici sur France 2 dans Complément d'enquête.
Là, j'ai trouvé ça d'une rare violence. J'ai l'impression d'avoir subi une agression sexuelle et je crois pas que le mot soit galvaudé. En tout cas...
C'est une agression sexuelle que vous avez...
Je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, étant donné que mon visage est sur un corps. Ce corps a un rapport sexuel avec quelqu'un. Ça, je ne le consens pas. Donc, je ressens évidemment une profonde atteinte à ma dignité. J'ai même pas vraiment les mots, parce que je suis encore très émue par ces images. J'ai quand même, je vais en parler à mon psy. C'est quelque chose qui est très méconnu. J'ai la sensation que néanmoins, à un moment, j'envisage que ça peut être mon corps. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on voit ces images, on oublie à un moment, même moi, je sais que c'est pas mon corps, j'oublie assez rapidement que ça n'est pas mon corps. Et j'assimile ce corps comme le mien. Donc j'assimile cette image de moi en train d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un que je ne connais pas, qui n'est pas consenti. Donc pour moi, c'est une agression.
Je suis face à Nicolas Julliard qui acquiesce.
Oui, alors ça c'est terrible comme situation. Et à contrario, je me disais que c'était aussi la mort de la sextape, parce qu'à partir du moment où tout peut être mis en question, alors ça peut arranger nos affaires, parce qu'on peut dire non, c'est pas moi, c'est un deepfake.
Ouais.
Mais ça tue aussi le jeu qu'il y a eu avec les sextapes où ça devient un objet promotionnel. Je pense que Paris Hilton doit beaucoup à la sextape.
Kim Kardashian,
etc.
Flore Chéri.
Oui, je pense que la sextape... En fait, ce qui est amusant sur la sextape, c'est qu'à la fois, elle peut promouvoir et lancer des carrières comme celle de Kim Kardashian et Paris Hilton, Clara Morgan presque aussi un petit peu, et en même temps, dégrader l'image de quelqu'un ou porter atteinte à l'image de quelqu'un. Ça questionne aussi sur la vision que l'on a du sexe, parce que ça voudrait dire quoi? Même pour Enora Malagré, ça veut dire que la sexualité qu'elle aurait eue avec quelqu'un serait dégradante pour elle-même. Ça pose aussi cette question-là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, encore en 2021, la sexualité des femmes exposées, l'intimité des femmes exposées est quelque chose de dégradante pour elles-mêmes? Ça pose aussi cette question-là, je trouve, le deepfake.
Une question que m'inspire ce sujet par rapport au porno, puisque c'est le sujet, hein, les tendances. Il y a une tendance, c'est le faux reality porn. Le concept est simple, c'est des actrices qui se lancent des défis pour trouver des inconnus dans la rue, sur des parkings, le livreur de pizza dont parlait Adeline. Elles abordent des mecs comme ça au hasard pour trouver quelqu'un d'accord de se laisser filmer. Alors, on est d'accord, Adeline, que ça, c'est plutôt bidonné. C'est pas complètement vrai.
Oui, je dirais, oui, 95%, c'est certainement bidonné, parce que, oui, déjà, pour trouver des complices qui se laissent filmer après, c'est pas si évident. Mais c'est vrai, c'est à la mode. Hein. Et puis les gens, ils croient, ils veulent y croire. Hein. Ça a commencé avec Jacques et Michel, qui étaient les premiers à faire ça, à inventer ces histoires. Ma voisine vient chercher de la farine, et puis je suis nue, et puis elle finit par me sucer. Et par hasard, je filme tout ça. Alors, il faut y croire, mais ouais. Il y en a toujours qui y croient, et puis, ou qui remarquent pas que c'est, en fait, c'est toujours le même mec qui s'habille toujours autrement.
Mais il y a quand même, il y a quand même des femmes qui se filment vraiment, qui vont sur les aires d'autoroute, qui parlent à des camionneurs, et là, peut-être prenez-moi pour quelqu'un d'extrêmement naïf, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment, en tout cas, une volonté très programmée de rendre ça extrêmement réel.
Oui, après, ça c'est l'autre chose où c'est vraiment, après, ouais, ça s'appelle un peu la chasse à la bite dans le milieu. Et là, c'est vraiment réel, en fait. Il y a des filles, elles vont dans les rues, elles vont aborder justement un camionneur ou des gens qu'elles croisent dans la rue. J'ai déjà vu, elles vont dans un magasin pour demander le vendeur si il veut pas se laisser sucer dans les toilettes ou des trucs comme ça. Et elles filment ça avec le portable.
Donc ça, c'est vrai, c'est pas
Là, c'est... Non, là, je pense là, c'est vrai vu aux réactions des gens.
C'est la saison de la chasse.
Oui, mais jusqu'où elle tombe après sur le mec qui se laisse sucer, et là, c'est souvent un complice, bien
d'accord.
Sûr.
D'accord.
Parce que pour se laisser filmer, et puis tout.
Ça, vous avez jamais tenté?
Ah, ça, c'est pas mon truc. Non, pour ça, justement, je pense que je suis trop suisse. Je suis trop respectueuse. Moi, j'aurais pas envie de déranger les personnes. Je fais aussi toujours très attention avec des photos coquines dehors, que je dérange personne, que voilà, qu'on me voit pas. Parce que je pars toujours du principe qu'il n'y a pas tout le monde qui est dans le même état d'esprit, et puis pas tout le monde trouve ça rigolo, et pas tout le monde veut absolument voir mes lolos, parce que c'est quand même, même si elles sont jolies, hein, quand même.
Fleur chérie.
Oui, de toute façon, je pense qu'Adeline l'a bien dit. C'est le but du jeu, c'est quand même de faire des tournages sécurisés, jolis à la caméra, intéressants et excitants. Donc, ça nécessite souvent un minimum de préparation, et recréer le réel ou l'illusion du réel, c'est quelque chose que vont rechercher beaucoup de boîtes de production. Jackie et Michel, on l'a cité. Il y en a d'autres aussi, et c'est ça qui est excitant, c'est ce doute. Ah, et si c'était vrai, est-ce que ça se serait vraiment passé? Est-ce que c'est réaliste? Et c'est ça qui est excitant, c'est ce qu'on va chercher.
Vous écoutez Question Q, c'est l'heure du sexto de la semaine et il est signé Antoine Ball.
Sexto.
Cette réunion Zoom en finit plus. J'ai envie de me pendre dans ma cuisine. Oui, Julien, c'est normal qu'on soit coupé, je relance une session tout de suite. Je me fous au lit. Ok, je cherche les tendances du prêt-à-porné hiver 2021-2022. Le magazine Grazia dit que la couleur de l'année sera le beige. Ça s'annonce folichon. Allez, je me laisse pas décourager, moteur de recherche, je tape tous les mots-clés, toutes tendances confondues, gay, genderqueer, hétérote. Je navigue un peu et je prends vite conscience aussi que mon niveau d'expertise pornographique n'est pas non plus phénoménal. Et pourtant, j'ai roulé ma bosse virtuelle. La vieille imprimante de mes parents s'en souvient. Mais je suis obligé de constater qu'en général, c'est vrai. Je retourne quand même assez systématiquement vers les mêmes sites, dans les mêmes catégories, dans les mêmes couloirs de jouissance. Et je suis pas difficile, en gros, plus qu'à de poils, plus je suis content. J'essaie de vaguement de surmonter la culpabilité suscitée par mon manque d'inventivité et je me noie d'infos sur Pornhub. Franchement, je comprends pas la moitié des abréviations de catégories. TMDBF, POV, apparemment c'est Point of View, GOI, Jerk Off Instruction, Deepfake, le doux visage de la reconnaissance faciale. K-pop deepfake, mind-blowing deepfake, truly mind-blowing deepfake. Apparemment, on n'arrête pas les prouesses pour s'exciter avec les stars à leur insu. Ah tiens, Emma Watson jouit même de sa propre catégorie. Ah oui. Harry Potter a vraiment excité toute une génération. On dirait qu'aujourd'hui, tout est deep. Deep Twitter, deep TikTok. En fait, tout bon réseau social a sa version profonde. Ce qui est peut-être pas plus mal, vu qu'on fait pas non plus trop les malins en surface en ce moment. Bref. on s'enfonce toujours plus loin dans le business sexuel grâce aux petits hashtags sur les routes de l'autopromotion. Et toute cette profondeur, ça me fait penser à Abyss. Je me dis, tiens, mais qu'est-ce qu'est devenue l'actrice Marie-Elisabeth Mastrantonio? C'est comme cette pub intempestive qui vient me couper chaque fois dans mes élans d'écran pour me rappeler à quel point je suis basique. Hey, pourquoi mater du porno quand tu peux le faire toi-même? And always free to join. En fait, ce que je comprends, c'est que pour se faire plaisir en ligne, la tendance est pas tant dans la révolution du contenu que l'évolution des contenants pour se faire plaisir. Quoique je lis que le coronavirus porn a quand même trouvé sa petite audience. Les scénarios de panique à l'hosto feraient ressurgir le fantasme du soignant tout en érotisant la menace. Non, je ne prends pas cet appel de ma mère. J'imagine plutôt un de ces hentai ultra-violents où des médecins et des infirmières lascifs tentent désespérément de gérer un virus monstre à tentacules qui leur pénètre pas que le moral d'ailleurs. Ça s'appellerait panique coronanale à Wuhan. Et puis soudain, une joie. Je lis que l'audio porn est en haut du panier des tendances, comme l'an passé. On vante les promesses du renouvellement des narrations, puissance de l'imaginaire auditif, alimentation des rêves et des fantasmes par la parole chuchotée. Sur ce point, un petit doute l'emporte quand même à la lecture des premiers titres d'audioguette domination que je trouve. Je te féminise et tu deviens ma salope. Je sais que t'es pédé, j'ai fouillé ton histoire. Ou encore, enlace mon gros homme microbe. Mais en écoutant, je dois avouer que la voix du narrateur me fait quand même un petit effet. Ouais, l'audio porn, ça fait rêver. D'ailleurs, j'ai fait un rêve la semaine dernière. J'arrivais trop tôt pour ma séance de psy. Bizarrement, j'entrais sans toquer, un peu comme chez moi. Et là, je le surprenais, le psy, en train de s'astiquer tranquille. Paniqué, il a fermé d'un coup son ordi. Grosse gêne, évidemment. On ricane bêtement les deux. La tension monte et il finit dans ma bouche, sur le divan. Et bien sûr, dans le rêve, pas de séance. Sauf que la vraie séance a lieu, elle, la semaine suivante. Et que je me sens obligé de le lui dire. Comme si ça allait nous faire avancer à fond dans le travail. J'ai vraiment honte, mais je me dis, allez, vas-y, lâche-toi, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il répond, intéressant. D'autant qu'ici, vous êtes allongé et que je suis derrière vous. C'est pas vrai, il a pas dit ça. Mais j'aurais vraiment voulu. Alors, entre Twitter XXX ou Deep TikTok, moi, je choisis la science des rêves. Ça sonne bien, hein? Sauf que c'est pas vrai non plus. Je suis comme les autres qui se touchent quand même un peu entre deux zooms de taf à la maison. C'est très bien que je vais me connecter la prochaine fois que je vais procrastiner. En fait, la vraie tendance du porno 2021-2022, c'est le télétravail.
Et si on parlait de...
Hello.
Q.
Hello, man, it's me. I'm right here. You hear me? Right here, the guy with no shirt on, you hear me? I'll cut through my breath, man. You hear me?
You get whatever you want. Are people getting ready to complete your wish? They say you are one of a kind. But all the people, they're praising you. Our fans become slaves like a carnival. The world ain't never seen a thing like this. Get up.
Les Biennois de Putzmari, Pornstar, sur la première.
C'est une histoire d'amour.
Oui, mais complètement à contre-courant, hein. Très pur. J'aime beaucoup le personnage de la jeune fille.
Oui, comment est-elle ?
Nymphomane. Ça, c'est la petite nouveauté du scénario.
Et vous n'imaginez pas le mouvement que ça donne à toute l'histoire, mon petit François.
Mais ça fout toute mon histoire par terre.
Pas du tout !
On m'a surtout coupé dans les discussions.
Ouais, là, c'est... Voilà,
c'était interminable, ces discussions.
Mais qu'est-ce qu'ils font à la place ?
Ils partent tous !
Question Q sur la première, de 21h à 22h.
Vous écoutez Question Q avec l'actrice porno Adeline Lafouine. Elle est aussi vidéaste, chroniqueuse, blogueuse. Elle a même écrit un livre, Fais le bien et laisse dire. Dans cette émission également, Flore Chéri, Nicolas Julliard et Antoine Ball qui viennent nous lire son sexto. Ou plutôt une balade, hein, Antoine, une balade sur la toile porno.
Ouais, je m'ennuyais.
Ah, le télétravail. Flore, une vidéo en amène à une autre. C'est infini, en fait.
Bah, les algorithmes aujourd'hui sont bien faits, surtout des gros sites ou des grandes applications. L'idée, c'est de faire rester le spectateur, le consommateur, comme on appelle ça, le plus longtemps possible. Donc, on va lui proposer du contenu qui ressemble ou qui pourrait lui plaire. On va lui soumettre des nouveaux tags, toujours en fonction de son historique de recherche. L'idée, que ce soit sur un site porno ou ailleurs, c'est de rendre addict à l'application ou à la plateforme.
Est-ce que je me trompe ou les gens vont souvent chercher des trucs qu'ils ou elles aiment ? Enfin, qu'il n'y a finalement pas grande place à la découverte. Dans la barre de recherche, on sait exactement ce qu'on veut, on va le chercher et puis paf paf, en deux clics c'est réglé.
Oui, les gens sont dans un rapport assez compulsif, sans vouloir forcément les juger par rapport à la consommation de porno. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas le temps. Enfin, est-ce qu'on a une heure, deux heures comme ça d'exploration en se disant « Tiens, quel est ce mot compliqué que je ne connais pas, je vais aller chercher ?» Non, on se dit « Tiens, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai 10 minutes à y accorder grand maximum. » Et on est presque dans un rapport hygiénique aujourd'hui à l'orgasme, au plaisir sexuel, faut que ça aille vite, et puis on passe à autre chose assez rapidement après. Donc oui, les mots-clés sont souvent les mêmes. On va aussi avoir des routines masturbatoires qui sont souvent les mêmes, se masturber toujours de la même façon, avec l'ordinateur placé toujours de la même façon, en se positionnant toujours de la même façon. Oui, pourquoi ? Parce que la routine permet d'aller de plus en plus vite. Hein, donc, c'est normal qu'on ait aussi une routine de fantasme, quelque part.
Ça s'appelle la branlette capitaliste. C'est ça.
C'est ça.
Efficace et performante. Vous avez fait allusion, Antoine, au porno issu du coronavirus. Est-ce que quelqu'un a vu du Covid porn ?
Non, je savais même pas que ça existe.
Non, ça dans le magazine Union, dans la production Union, nous on avait fait un numéro spécial Covid avec une actrice qui avait son masque, qui avait des gants, qui avait du gel et qui avait animé comme ça toute l'histoire autour de ça. Donc nous on avait pas mal produit de porno en rapport avec le coronavirus. Et on avait fait un 24 heures confiné avec je ne sais plus qui, quelle actrice. Enfin on jouait beaucoup, on jouait beaucoup là-dessus, bien sûr.
Ouais, mais en fait ce qui est fou c'est que il y a quand même toujours l'infirmière qui revient, quoi.
Ah oui, ça c'est indémontable.
Intemporel. Ça,
c'est... Et là, tout d'un coup, le Covid long devient indésirable.
Ouais, c'est ça. Non, mais il y a le post-pandémique fuckfest. J'ai vu ça, c'est la fête d'après-pandémie, où on fantasme le monde d'après-pandémie, où tout le monde baisse tout le monde.
Autre... C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal.
Il y avait une étude IFOP qui était sortie justement à ce sujet-là en disant que les célibataires, après le Covid, baissaient leurs standards sur leurs partenaires sexuels. C'était un peu comme Jean-Claude Duss, quoi. C'est le syndrome, ils étaient prêts à faire l'amour sur un malentendu, quoi. Parce qu'on en était là.
Autre tendance, j'apprends plein de choses dans cette émission. Autre tendance, le cosplay érotique. Alors le cosplay, c'est le fait de jouer le rôle de personnage, souvent de manga, hein, Flore Chéri, en imitant leurs costumes, leurs cheveux, leurs gestuels.
Oui, alors on va retrouver ce phénomène beaucoup chez la jeune génération, la génération Y, voire même la génération Z, qui s'inspire un peu des costumes que l'on retrouve à Paris Manga, pour ceux qui sont français, pour ceux qui vont à Paris, qui est un énorme événement où on s'amuse, on se déguise, on met des coiffures, des perruques roses, bleues, on met des petites jupettes d'écolière, on va beaucoup s'inspirer aussi de l'univers érotique japonais.
On a Polymanga à Lausanne.
Ah bah très bien, parfait. Ou Polymanga. Et on va évidemment se réinspirer de cet univers qui est un monde assez particulier parce que ça peut être souvent un monde enfantin, comme on retrouve au Japon. Donc c'est vrai que pour nous, occidentaux, qui avons très peur de la pédopornographie, ça peut parfois créer des choses un peu bizarres, quand on voit quelqu'un qui se rajeunit à l'extrême avec des couettes, en suçant des petites sucettes, avec son petit nounours. C'est parfois un petit peu étrange, mais ça permet aussi de s'identifier à des personnages de jeux vidéo, beaucoup. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement, extrêmement bien.
Il y a Belle Delphine, par exemple, qui est une influenceuse sexy sur les réseaux. Elle est très célèbre pour sa grimace en louchant.
C'est vraiment Belle Delphine, c'est l'incarnation du cosplay dans le milieu porno, clairement. Elle a participé à démocratiser tout cet univers-là. Et elle est connue pour cette fameuse grimace où on tire la langue en louchant et en levant les yeux en même temps. C'est une façon de simuler l'orgasme, mais une façon intelligente, puisque on ne voit que le visage. Donc, c'est à la fois extrêmement explicite, tout en respectant les règles de la nudité, puisqu'on ne voit que le visage. Et en fait, cette grimace a été reprise après par pas mal d'acteurs porno, même pas forcément déguisés en cosplay, mais ça permet de participer à la visibilisation de l'orgasme, qui est toujours un enjeu quand on fait du porno. C'est quelque chose de très interne qui se voit pas beaucoup. Et hop, avec cette grimace, ça y est, on renseigne le spectateur en disant, voilà, tel ou tel acteur a eu un orgasme.
Et il y a d'autres actrices porno qui reprennent cette mimique, en fait. C'est devenu un mème, quoi. Donc, un clin d'œil référentiel, quoi.
À quand l'emoji?
Oui, c'est ça.
mais ça excite pas mal de mecs. On m'a déjà demandé, alors.
On vous a demandé de faire la grimace en louchant.
Oui. Pendant des shows live ou des Skype privés, on m'a demandé de faire ça et j'étais obligée de taper dans Google Aiko Face et puis de l'apprendre devant le miroir. Et je me suis trouvée complètement ridicule. Mais en même temps, je dois avouer, il y a quand même un petit peu d'érotisme dedans dans cette grimace.
Mais est-ce que parfois, Dina Fuin, vous vous demandez, mais quand même, l'humain est quand même un peu bizarre.
Ah, mais l'humain, c'est incroyable. Il n'y a pas que cette grimace, il y a toutes sortes de fétiches. On m'a déjà demandé des trucs de faux où on ne peut pas s'imaginer comment c'est possible de s'exciter sur ça. Par exemple, dernièrement, c'était des sockets. Bah, quelqu'un qui flash sur des sockets.
Très voilà. Japonais, ça aussi.
Sockets de sport ou tenue de sport. Après, j'ai déjà vu aussi, je sais pas si vous êtes tombé dessus, le horror porn. Avec c'est un peu comme le cosplay, mais avec des costumes de films d'horreur. Ah. Alors, vraiment des monstres.
Je pense qu'il y a des pornos Squid Game.
Dracula, il y a qui dedans.
Oui, vraiment, mais très monstrueux. Hein, avec ça fait peur. Hein. Bon, comme un alien, ouais, se faire baiser par un alien.
Personne, qui sommes-nous pour juger, Adeline? Flore Chérie, l'émission passe très vite et tout à l'heure on aura la chronique de Nicolas Julliard. Un mot quand même sur une tendance plus large qui dépasse le porno, c'est l'écolo-porn, le green porn. C'est tout ça évidemment très commercial, mais Pornhub a lancé une chaîne vraiment consacrée à la cause écologique.
Oui, il y avait bisexual, B-E-E, qui, l'abeille en anglais, qui sensibilisait les utilisateurs au rôle important des abeilles dans l'écosystème. Pornhub, c'est pas la première fois qu'ils font des campagnes pour se donner une image verte militante. Il y avait aussi le porno le plus sale du monde, où on voyait un couple d'acteurs porno qui faisait l'amour sur une plage avec plein de déchets, plein de déchets, et ça sensibilisait bien évidemment à la pollution des océans. Il y a plein d'initiatives qui ont été portées comme ça, donc que ce soit par les gros sites pornographiques ou alors par des personnes indépendantes. Il y a beaucoup de travailleurs du sexe qui sont sensibles à d'autres causes que simplement celles des travailleurs du sexe, les causes militantes, la défense des animaux, la défense des droits des femmes. Souvent, tout se rejoint un peu et il y a beaucoup d'initiatives entre le monde de la sexualité et le monde militant de façon plus large.
À quand le porno vegan avec des légumes?
Oui, c'est ça, ça existe, que je
oui,
croyais.
C'est vrai,
non, ça existe, bien sûr.
C'est juste une étiquette de plus.
C'est ça. Non, mais tout ça est quand même très ironique et très commercial, sachant que le porno sur les plateformes, on le sait, génère des dizaines et des dizaines de millions de tonnes de CO2. Dans quelques instants, la chronique de Nicolas Julliard, mais avant cela, on écoute Sex Convention, toi qui rêves de baiser.
Question Q.
le magazine des sexualités sur la première.
Question Q ce soir, on vous parle des modes dans le porno et vous aussi, Nicolas Julliard, en grand professionnel que vous êtes, vous avez fouillé les internets pour tracer les tendances porno automne-hiver.
Ben oui, quand même, je vais vous dire, je vais trahir mon âge parce que si vous, chères auditrices et auditeurs, êtes comme moi d'une génération qui a vécu son adolescence sans internet, ben vous vous souvenez certainement que le porno c'était soit des revues qu'on se passait sous le manteau et qui finissaient dans un piteux état pour peu que vous arriviez en bout de chaîne, un peu genre le téléphone arabe. Ah, à l'origine c'était une revue ça, ok. Soit ça, soit donc un effort d'abstraction pour faire de ses yeux un décodeur Canal+, histoire de déchiffrer ce qui se passait derrière le brouillard de l'image codée accompagné de... excitant, disons, pour qui possède une imagination hors norme. Bref, le porno, ça se méritait. Mais un jour survint le web. Eh oui, oui. Et là, alors d'un coup, c'était open bar. Très vite, on a compris comment trouver tout ce qu'on cherchait. On s'est habitué à naviguer entre des catégories plus ou moins précises et étranges au gré de nos désirs. Teen, mature, amateur, milf, German, gros sein, anal, hairy, cuckold, latina, threesome, cream pie, gay, lesbian, BDSM, asiatique, célébrité, foot job, gangbang, interracial, broochat, partout, squirt, mamie, vintage, vieux et jeune, massage, fessé, ebony, infidélité, escort, face-sitting, beau-fils, esclave, fist-fucking dans la brouette du jardinier avec des orties fraîches. Que sais-je encore, tout est possible et à portée de clic. Alors on se dit, ça devrait suffire à notre bonheur. Mais, comme disait mon père, changement d'herbage réjouit les veaux. Oui, c'est comme ça. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Ah bon, il faut dire qu'à un moment donné, l'imagination a ses limites et il faut faire appel à des pros, des créatifs qui savent repousser les limites du porn business, balancent le missionnaire par-dessus bord et voient avant tous les autres darder les nouvelles tendances. Et ces gens-là existent. Mais oui, j'en ai découvert un. Il s'appelle Boris Klitt. Il est consultant en storytelling porno. Je lui ai passé un coup de fil.
Alors on a lancé il y a plus de 20 ans maintenant un think tank du nom de Stupre. Stupre, c'est l'acronyme de storytelling à usage du porno de recherche émergent. On est aujourd'hui sur la francophonie le premier provider en contenu innovant et on travaille avec tous les grands groupes du secteur comme YouPorn, Marc Dorcel, Xhamster, Twitter ou Watson. Et pour être plus efficient, j'ai aussi créé un institut de recherche soutenu par un fonds du CNRS, le Centre National de la Rentabilité Sexuelle, pour développer tout un arsenal très agile de bonnes pratiques destinées à fournir en jet continu du storytelling innovant à l'usage des créatrices et créateurs de porno.
D'accord. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le grand public ne vous connaisse pas, et pourtant, ça fait déjà pas mal d'années que vous dominez ce secteur d'activité.
Ah oui. Je crois qu'on peut dire sans se vanter qu'on a été les premiers sur le game avec Stupre. Tout au début d'Internet, on a commencé à streamliner notre know-how avec quelques types de vidéos qui sont devenues virales. On a comme ça été les premiers à proposer comme storytelling sa copine le surprend avec sa belle-mère, un carton, ou très suivi aussi l'entretien d'embauche qui tourne en débauche, ça a été énorme. Et puis alors le hit absolu, et aujourd'hui encore c'est toujours le cas, c'est les réparateurs en tout genre, le plombier, l'électricien, le peintre, le ramoneur qui chauffe la femme au foyer, ça c'est vraiment le truc qui a le mieux cartonné pendant plusieurs saisons.
Oui, alors tout ça on connaît, c'est les grands classiques du genre, Boris Klitt, mais tout le monde les a repris, et du coup vous devez avoir toujours un coup d'avance, si j'ose dire.
Ah bah oui, forcément, et c'est là qu'interviennent nos créatifs. On développe au sein de notre incubateur des nouveaux concepts qu'on va benchmarker auprès d'un public test avant de les implémenter dans la boucle.
Sans tout déflorer, vous pourriez nous donner un petit aperçu de ce sur quoi vous planchez en ce moment ?
Alors oui, c'est vrai que ça tient un petit peu du secret industriel, mais là on a quelques projets qui sont à bout touchant, et je veux bien en dire un mot. Par exemple, on a imaginé un nouveau concept un peu fou qu'on a appelé la turlute tutu.
La turlute tutu, c'est quoi ça?
Ah bah c'est tout simple, c'est une fellation avec un tutu. Mais attention, c'est pas la personne qui reçoit la fellation ou qui donne la fellation qui porte le tutu. Non, c'est un mini tutu qu'on glisse sur le sexe en érection. Vous voyez le tableau? Alors le seul problème qu'on a eu, c'est de trouver des testeuses qui ne riaient pas trop au moment du tournage. Mais voilà, passer ses premières émotions bien légitimes, je crois que ça va être très joyeux et très très populaire.
Mmh, ouais. D'autres idées comme ça?
Ah bah oui, il y a aussi le Roller Clusterfuck. Ça c'est un projet qui consiste à orchestrer ce qu'on peut appeler une partouze, mais sur un roller coaster, donc des montagnes russes. Ça tombe bien parce qu'on a beaucoup d'actrices russes d'ailleurs. Alors c'est assez périlleux parce que ça va vite et les changements de partenaires sont assez sport. On met ça au point. On a malheureusement eu un petit accident avec notre premier caméraman, voilà, disons que c'est en développement, mais on y croit, c'est un concept tout à fait prometteur en tout cas.
Oui.
Sinon, encore plus fou, et alors ça j'y crois à fond, c'est la Stup Fuckfest. C'est en fait une idée qui nous est venue en voyant la vogue du yoga paddle. Au départ, il y avait le stand-up paddle, hein, vous voyez, la planche qu'on ramait debout sur l'eau. Et puis ensuite, certains ont développé le yoga sur paddle, ça a pris. Et là, on s'est dit, mais pourquoi pas combiner ça avec un scénario porno? En fait, le storytelling est assez sympa, parce qu'au départ, c'est du paddle, on voit l'acteur et l'actrice en train de ramer. Et puis, quelque part sur l'eau, eh ben, ils vont rencontrer des partenaires sur d'autres paddles et accomplir différentes positions tout en gardant l'équilibre sur l'eau. Et le gag, c'est que la pagaie est munie d'un embout en forme de godemiché, ce qui permet aussi toutes sortes de fantaisies. Donc, ouais, c'est assez acrobatique. On a prévu un tournage près de chez vous, d'ailleurs, sur le lac de Genève.
Le Léman.
Voilà, le Léman. Et si ça se passe bien, on a prévu un développement un peu plus corsé. C'est le même principe, mais à La Réunion, au milieu des requins, et ça sera la version Shark Paddle Fuck qu'on a très très envie de développer.
Waouh, ok, affaire à suivre. En tout cas, merci Boris Klitt pour ces exemples éloquents. Je crois qu'on a bien compris avec ça comment vous avez pu devenir numéro un du secteur dans le monde francophone. On se réjouit de découvrir tous ces beaux concepts et on vous souhaite le meilleur pour la suite.
Merci à vous, et n'oubliez pas, comme le dit notre slogan, tous les chemins mènent à porn. Allez, bye bye.
Oui, tous les chemins mènent à porn. Voilà, je crois que c'est clair. En tout cas, personnellement, je ne verrai plus jamais le paddle de la même façon. Et là, je ne veux pas vous inquiéter, chère Adeline Lafouine, mais je crois qu'on peut dire que vous avez affaire à une sacrée concurrence.
Ah oui, alors là, l'imagination n'a aucune limite. Je pense le shark paddle, ce serait pas pour moi tout de suite.
Et la turlute tutu.
Oui, ça c'est oui, aussi à développer comme idée avec d'autres petits déguisements pour la pite, ça pourrait être très marrant.
Est-ce que Nicolas Julliard, toutes vos idées délirantes, vous les offrez à Adeline si elle veut les...
Avec grand plaisir.
Les accomplir dans cette vidéo.
Je prenais
quoi, 5% quoi, pas plus. Très bien.
Tenez-moi au courant.
Merci Nicolas pour votre imagination. Est-ce que c'est toujours la même histoire, Fleur Chérie? Est-ce que finalement on en revient toujours un peu au même classique que finalement ces montagnes russes et partout en roller coaster, les porno paddle malheureusement n'existent pas et que ça marcherait même pas au fond et qu'on a quand même toujours besoin d'une secrétaire.
Oui, il y a évidemment des grandes tendances qui fonctionnaient il y a 5 ans, qui sont les mêmes aujourd'hui, qui fonctionnaient il y a 10 ans, même il y a 20 ans, même il y a 30 ans, et qui sont les mêmes aujourd'hui. Maintenant, l'objet marketing et la façon de commercialiser les produits changent, et on n'est pas à l'abri d'un petit succès avec un produit complètement farfelu, qui fait le buzz, parce que justement c'est drôle, c'est rigolo, et ça fait rire, et ça amuse, et le porno sert aussi à ça. En fait, il y a une tendance dont on n'a pas parlé, qui sont toutes les parodies de films, de Game of Thrones, de tous les gros blockbusters qui fonctionnent, des Star Wars, et qui sont repris dans les films porno, non pas parce que c'est excitant particulièrement, mais parce que c'est amusant. Et il y a ce phénomène-là aussi qui est une vraie tendance porno.
Mais est-ce qu'il existe une version des Bronzés font du ski où Jean-Claude Duss peut conclure? C'est ça qu'on voudrait voir.
Ah mais oui,
ah, c'est ça qu'on veut voir.
Non, mais vous êtes trop fort, Nicolas. C'est pas possible. Pourquoi vous vous gâchez à faire de la radio à la RTS alors que vous pourriez lancer clairement une société de production?
Allez, Boris, c'est parti.
C'est vous.
Est-ce que le porno nourrit l'imaginaire sexuel ou la pauvrerie, Fleur Chérie?
Moi, j'aimerais bien qu'il le nourrisse. Maintenant, je le remets en question en me disant que peut-être parfois, il peut, parce que les scripts sont souvent toujours les mêmes, l'appauvrir ou en tout cas normer la sexualité, parce que beaucoup de jeunes consomment du porno et par paresse ou parce que c'est confortable, vont vouloir reproduire le script de ce qu'ils ont vu à l'écran. Maintenant, j'aimerais bien que ça nourrisse le fantasme, mais ça nécessiterait évidemment d'avoir un porno diversifié avec des choses très différentes. Et j'ai l'impression que quelle que soit la plateforme, c'est pas dû au porno, mais c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont plus tendance à imposer une norme d'esthétique, de corps ou de lifestyle ou je ne sais quoi, que de le diversifier quelque part.
Un commentaire, Adeline Afouin?
Oui, en principe, le porno, ça vend du rêve. Et puis, c'est clair, ça peut nourrir vachement après l'imagination, les envies. Ça nourrit les fantasmes, mais après, c'est pas la vraie vie, c'est pas la même chose comme dans le porno. Et après, ça peut aussi on est à des complications hein, si les jeunes hommes veulent reproduire certaines scènes avec leurs copines et puis ils vont remarquer que c'est pas la vraie vie.
Est-ce que vous le dites, vous, de manière peut-être, je sais pas, préventive, aux plus jeunes? Tu sais, moi je fais du porno, mais le porno c'est pas la vie. Est-ce que c'est un message qui vous semble important de véhiculer?
Oui, je le mentionne parfois dans mon blog que j'entretiens régulièrement. Je réponds aux messages parce que je reçois beaucoup de messages un peu du genre « j'aimerais essayer le fils sur ma copine ou ma copine, elle est pas trop fan de l'anal, comment je peux faire qu'elle va aimer ?» C'est voilà, il n'y a pas tout le monde qui va aimer forcément la même chose et puis il faut vraiment différencier le porno avec la vraie vie. Et essayer de ne pas insister ou de ne pas être frustré. Il faut vraiment savoir que le porno, ça vend du rêve. Voilà.
Moi, je crois qu'on aura appris plein de choses ce soir. Décidément, le porno est un très vaste territoire. C'est la fin de cette émission. Merci Adeline Lafouin, Fleur Chérie, Nicolas Julliard et Antoine Ball. Belle soirée à toutes et à tous.
Merci. À bientôt. Bonne
soirée. Merci. Vraiment.
Merci à Jean-Claude Gaillet, la réalisation, à Radio France Montpellier pour le duplex à Genève aussi, Alexandre Lemierre à Paris. Merci à Muriel Yost, attaché de production, Bastien Arnold à la programmation musicale et Laure Meret à la documentation.
Question Q, Christine Gonzalez.
On se retrouve la semaine prochaine avec comme invité Ferdinando Miranda, directeur du Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités de l'Université de Genève. D'ici là, je vous souhaite plein d'amour, de rire, de tendresse, de cul, si ça vous tente, bien sûr, et que c'est consenti. Belle suite de soirée à toutes et à tous à l'écoute de la première. Dans quelques instants, la ligne de cœur. Mais avant cela, les informations, puisqu'il est 22h.